106.9 Mauricie. Commentaire. Que la Mauricie se lève. Voici Robert Aubin.
Salut Robert.
Bonjour Catherine. Quelle page d'histoire quand même que ces deux référendums de 80 et 95.
Oui, absolument. Évidemment, moi, bon, 80, j'avais 4 ans, là. J'en ai entendu parler dans mes cours d'histoire, mais comme tu disais, mais bon, 95, je l'ai vécu, alors c'est plus concret pour moi, mais oui, c'est une page d'histoire importante. Et j'aime beaucoup l'aspect que Mme Champagne a amené. C'est-à-dire que ce soit le référendum ou d'autres événements, je trouve qu'on a tendance à passer vite. Tu sais, quand on dit qu'on connaît pas notre histoire, là, je veux dire que ce qui est inscrit sur notre plaque, là, je me souviens. J'ai l'impression que des fois, on se souvient pas de grand-chose. Es-tu d'accord avec ça?
Plus ou moins quand même, pour avoir enseigné l'histoire au secondaire, là, mais évidemment, quand on regarde le nombre d'heures attitrées à l'histoire, à l'enseignement de l'histoire, puis l'histoire du Canada au complet en secondaire 4, on trouve toujours que c'est trop peu, mais les sujets sont quand même abordés maintenant.
Okay.
Est-ce que c'est le meilleur moment au secondaire? Je suis pas certain. Il faudrait que ce cours-là soit davantage au collégial où notre sensibilité est peut-être plus grande parce que on fait nos premiers pas dans cette société civile en tant que citoyen presque indépendant ou en tout cas un peu plus décollé de la maison, là. Alors, on n'en parlera jamais trop, ça c'est certain. Et moi, je suis de ceux qui pensent que le troisième référendum arrivera un jour. Je ne suis pas sûr de voir ça de mon vivant, non effectivement.
Okay.
mais je pense surtout qu'il arrivera le jour où on va changer le discours et où on va nous proposer un projet positif et rassembleur. Je pense qu'il est terminé le temps où on va s'imaginer pouvoir faire la souveraineté du Québec sur une chicane fédérale-provinciale. Ça a toujours été un élément moussant. Moi, j'ai souvent en tête cette phrase que je vais paraphraser parce que je ne me rappelle pas ses mots exacts, mais c'est mon ancien collègue Roméo Saganache qui disait « Il n'y a jamais un pays qui s'est créé avec la collaboration des Autochtones. Le Québec pourrait être le premier. » Et ça, c'est une question qui résonne beaucoup chez la jeune génération et qui pourrait donner un élan positif et une raison de faire la souveraineté au Québec en association avec les peuples autochtones et être encore une fois les premiers. On l'a été souvent avec la paix des Braves, avec le traité de la baie James. On a été souvent des précurseurs dans une relation améliorée. Je pense que tout le monde est en train de s'entendre pour dire qu'il faut pousser ça plus loin. Est-ce que la souveraineté construite avec les peuples autochtones pourrait être une bougie d'allumage? Peut-être que oui.
Ouais, c'est une phrase très sage de M. Saganache. J'aime ça que tu partages le tout avec nous. Robert, je veux qu'on parle un petit peu de GNL Québec. Il s'en est dit des choses cette semaine. Je veux t'entendre là-dessus. Ouais. Ben, je me doute un peu de ton alignement, mais sous quel angle tu veux l'aborder?
Ben, écoute, je vais pas changer mon alignement. J'en parlais déjà à la dernière campagne électorale en faisant attention de pas faire mal à mes collègues du Saguenay. Mais ce que je retrouve surtout, c'est quand est-ce qu'on va comprendre le message que les grands projets d'infrastructures de pipeline sont pas assez dates? Et je trouve qu'on est particulièrement incohérent, sauf pour une raison, puis ça sera peut-être ma conclusion. Oui. En 2018, au Québec, on a légiféré, c'est le gouvernement libéral à l'époque, on a légiféré pour interdire la fracturation hydraulique. On a dit ça, là, c'est pas bon sur notre territoire, on n'en veut pas de ça. Ben, dans cette grande maxime qui veut que ce qui est bon pour Minou soit bon pour Pitou, si c'est pas bon pour nous, pourquoi est-ce qu'on accepterait qu'un pipeline passe sur notre territoire pour venir liquéfier du gaz naturel qui serait issu en bonne partie de la fracturation ailleurs? Déjà, j'ai un problème avec ça. Je me demandais aussi cette semaine, pourquoi est-ce qu'on fait un BAP pour un projet qui est pas ficelé? Parce que le financement du projet GNL Québec, c'est pas ficelé, là.
Non,
et si un gars comme Warren Buffett décide qu'il retire son financement parce qu'il croit pas que le projet peut aller de l'avant pour toutes sortes de raisons, qui sait qui va se lever? Probablement pas ni toi ni moi avec les budgets qu'on a pour aller investir dans ce projet de 14 milliards.
Non, exact.
Ça me semble pas faire beaucoup de sens.
Parce que juste, si tu me permets, Robert, juste revenir là sur, parce que tu viens d'en parler, c'est un méga chantier de 14 milliards. Alors, projet de 750 kilomètres qui transporterait du gaz de l'Ouest à partir de l'Ontario jusqu'à l'usine de liquéfaction à Saguenay. Alors, c'est ce projet-là, ce dont il est question. Je te laisse poursuivre.
Puis là, on parle d'un projet qui est évidemment pas en route présentement parce que le BAP fait ses audiences. Ouais. Mais quand on regarde l'Agence internationale de l'énergie, ils nous disent que le sommet de la consommation ou de la demande en gaz naturel va être atteint en 2030. Après ça, ça va décroître. Mm-hmm. Mais là, on est rendu en 2022. Le projet, s'il allait à terme, serait probablement efficace en 2026. En 2026, puis en 2030, la demande va chuter. Je me demande dans quoi on est en train d'investir sérieusement, là. On nous dit l'argument principal, c'est que c'est pour amorcer une transition verte parce que ce gaz naturel va servir à retirer un certain nombre de clients de la filière de charbon. Mm-hmm. Bon, ben, voilà un argument qui se tient, mais qui malheureusement se démontre peu. D'ailleurs, on nous dit, selon les promoteurs même du projet, c'est 60 % de la production qui remplacerait du charbon. Mais moi, à 60, on est plus proche de 50-50 que du 100 %, là, ce qui veut dire que du charbon, il en resterait encore pas mal. Ouais. Et en plus, on n'est pas capable de garantir ce 60 %-là parce qu'on nous dit, non, on ne peut pas mettre dans les arguments ou dans les clauses d'un contrat que l'achat du gaz naturel qu'on vous vendrait doit obligatoirement faire disparaître du charbon. Alors là, on est sur un vœu pieux, à mon avis, là,
okay.
Qui,
dis-moi,
en partie, va se réaliser, mais dans des pourcentages qui, à mon avis, seront pas de l'ordre de 60 %, mais nettement en dessous.
OK. Ta réaction, le temps file un petit peu, ta réaction en lien avec le mémoire qui a été déposé par la ville de Latuc auprès du Bureau des audiences publiques. T'es surpris ou non?
Ben non, je suis pas surpris du tout. Est-ce que tu connais un maire qui refuserait 10 millions par année dans le budget de sa circonscription? Et ça ouvre la porte à un débat qu'on a depuis des années. Il faut vraiment que les municipalités puissent avoir accès à un autre mode de financement que la taxe foncière, parce qu'ils ont des responsabilités absolument gigantesques et une capacité de lever des fonds qui est la plus petite de tous les paliers de gouvernement. Il est là le problème.
Et ouais, évidemment, parce que Robert,
quand on fait miroiter un élu 10 millions par année, qui est peut-être, je sais pas, le quart de son budget.
Ben voilà, mais parce que je te pose la question, tu serais maire de Latuc, puis malgré tes convictions profondes, tu aurais probablement pas le choix d'aller dans ce sens-là. Quand on te promet 10 millions, tu dis quoi?
Ben, je dirais exactement ce que je dis ce matin, c'est-à-dire que le 10 millions, c'est intéressant, sauf que le projet ne peut pas aller de l'avant.
Okay.
Tout concorde à dire que ça n'aura pas lieu. Et ma conclusion, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on fait un BAP? Sinon, pour que le gouvernement, on se rappellera de M. Legault qui avait dit du pétrole albertain que c'était du pétrole sale puis qu'il n'en voulait pas.
Ouais.
Ben, il y a comme une petite obligation de reconstruire les ponts avec ses premiers ministres canadiens, dont Jason Kenney. Et puis, le projet de GNL Québec, le fait d'en faire l'étude, c'est de dire, bon, ben, un, je fais un BAP, donc vous voyez bien que je suis pas fermé. Deux, si le BAP peut ajouter suffisamment de conditions au projet, plus qu'il y en a déjà, pour qu'on se rende bien compte que ça sera pas possible, ben je porterai pas l'odieux de dire non. Ça va être comme une décision collective.
Ouais.
Alors, je pense qu'il y a une stratégie pédagogique derrière ce BAP-là et politique pour dire, voilà comment je vais me sortir de cette situation-là sans avoir dit que l'énergie qui vient de l'Ouest est sale.
Robert, on y va rapidement. Ton digne de mention ce matin?
Ben, mon digne de mention est au recteur McMahon parce que, un peu à l'image de M. Parizeau dont on parlait tantôt, je trouverais ça vraiment triste que ce qui reste à coller à son nom, ce soit l'histoire du lock-up. Bien que ça, ce sera toujours collé, on pourra jamais oublier ça.
Non.
Mais il faut quand même donner à César ce qui appartient à César. Il nous laisse une université en santé financière où les chaires de recherche se multiplient, où l'expansion des pavillons hors campus se multiplie aussi. On apprenait celui de Québec dernièrement, où la clientèle est en hausse. Alors, il y avait vraiment un travail formidable qui mérite d'être souligné à quelques temps de sa retraite.
Et qui se mérite ton digne de grief?
Ah, mon ministre préféré, celui que j'interpellais tous les jours à la Chambre des communes, le ministre Garneau.
Ah oui?
Que je trouve d'une lenteur absolument extraordinaire. On se rappellera, moi j'ai toujours en tête l'épisode des 737 Max.
Oui,
qui l'a cloué au sol au moment où à grandeur de la planète, il n'y en avait plus un qui volait, ça que je vois pas comment il pouvait arriver chez nous. Et là, il est aussi lent et aussi peu affirmé quant au remboursement des billets d'avion aux citoyens canadiens. Alors que son collègue, le ministre Leblanc, a dit il y a quelques semaines que dans une négociation avec l'industrie aérienne qu'on souhaite tous qui existe, là, cet enjeu-là devra faire partie de la négociation. Ben, M. Garneau s'en va dire quelques semaines après, non, on ne va pas imposer aux compagnies aériennes le remboursement. Je m'excuse, là, mais moi, j'ai pas choisi d'être actionnaire de Air Canada, d'Air Transat ou d'une autre compagnie, là. Et c'est beau dire, on le souhaite, on les incite ardemment. Non, je pense que comme dans tous les grands pays qui ont soutenu leur industrie aérienne, on doit imposer le remboursement des billets d'avion.
Je m'ennuie de tes sorties lorsque tu t'adressais à lui en chambre. Je sais pas si lui, ça lui manque. Moi, ça me manque, par exemple.
Ça doit pas. Il y avait même
non, je pense pas.
Traité mes sorties d'hebdomadaire, je me rappellerai
tout. Oui, tout à fait. Salut, Robert, à lundi.
Bye-bye.
Bye-bye, Robert Aubin. Lundi, vendredi, 7h50, c'est vrai qu'il lâchait pas, M. Garneau.